Le débat de midi, c'est parti. Avant, c'était simple. Il y avait les pour et il y avait les anti. Et les pour étaient vraiment pour et les anti vraiment contre. Et puis le réchauffement climatique a fait vaciller les lignes. Même le GIEC le dit, le bilan carbone du nucléaire est bon, sensiblement le même que celui des énergies renouvelables. D'où ces voix qui s'élèvent, puisque l'urgence est de réduire le rejet des gaz à effet de serre et que pour l'instant l'éolien et le solaire ne suffisent pas. Pourquoi ne pas compter sur le nucléaire? Évidemment, cela pose la question encombrante des déchets, mais aussi de sa sûreté. Le nucléaire peut-il être écolo? C'est notre menu atomique d'aujourd'hui.
Thomas Chauvineau, le débat de midi, sur France Inter.
Quand je dis atomique, ça s'entend dans tous les sens du terme, puisque nous commençons à recevoir déjà de nombreux mails et tweets d'auditeurs, plus ou moins contents, mécontents de poser cette question. En tout cas, elle mérite qu'on se la pose. Bonjour Yves Marignac.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de l'association Négawatt, en direct de Saint-Étienne, et j'en profite pour remercier nos collègues à France Bleu Saint-Étienne. Bonjour Valérie Faudon.
Bonjour.
Vous êtes délégué général, je crois qu'on vous a pas entendu, mais vous êtes délégué général de la Société française d'énergie nucléaire. Bonjour Karine Herbiou.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Mais pour commencer, comme tous les jours, j'accueille un confrère de la presse écrite qui vient raconter ce qui fait débat dans ses pages. Et c'est vous, Alexandra Schwarzbrod de Libération. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes demandé ce qu'il se passerait si la pandémie s'installait durablement, voire même pour toujours. Et pour y répondre, vous avez demandé dans les pages de Libération à deux auteurs de Polar d'imaginer non pas ce monde d'après Covid, mais ce monde avec Covid.
Exactement. C'est une petite phrase du directeur général de l'OMS que vous avez tous entendu, hein, disant « Cette pandémie est une crise sanitaire comme on n'en voit qu'une par siècle et ses effets seront ressentis pour les décennies à venir ». Et donc, j'ai eu envie de demander à deux auteurs de Polar que j'apprécie beaucoup, Percy Kemp et Anne Lorker, de nous raconter, de nous écrire pour Libé une petite nouvelle mettant en scène une situation dans une société sous Covid, c'est-à-dire vivant avec le Covid. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Percy Kemp, c'est un auteur britanno-libanais qui écrit surtout des romans d'espionnage. Il a un héros récurrent qui s'appelle Harry Boone et justement, il a un imaginaire assez très intéressant et il nous a écrit un texte assez amusant. On se croirait un peu dans Brésil parce que finalement, il met en scène un auteur à succès, chouchou des plateaux télé, qui écrit des livres qui se vendent par centaines de milliers et qui se retrouve un jour convoqué au ministère de l'Information. Donc, il se demande ce qui se passe, pourquoi il est convoqué de la sorte. Et alors là, il tombe sur quelqu'un, sur un haut fonctionnaire qui lui dit que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout parce que ces bouquins mettent en scène des sens qui sont le toucher, l'odorat.
On lui reproche par exemple d'avoir mis en scène des danseurs de slow, alors que le slow c'est tellement bien, hein. Mais on peut plus dans ce monde d'après, de ce monde d'avec Covid, on ne peut plus danser le slow, on ne peut plus toucher une pêche, toucher les fruits sur les étals des marchés. C'est drôle et en même temps le monde qu'ils racontent, les deux auteurs avec qui vous avez travaillé, Alexandra Schwarzbrod, il est complètement flippant, hein. Tout rassemblement durablement interdit, test obligatoire pour tous, loi de sécurité sanitaire.
Bien sûr, il est très 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 flippant et c'est pour ça que ces textes sont extrêmement intéressants parce qu'ils racontent à la fois une réalité qui pourrait très bien arriver mais avec beaucoup d'humour et beaucoup de second degré. Et d'ailleurs, notre deuxième auteur, Anne Lorker, je ne sais pas si vous aviez lu son roman qui a eu le plus de succès, La Daronne, qui a fait beaucoup de bruit, c'est une avocate, Anne Lorker, qui écrit des polars et qui est très drôle, très très drôle. Elle est à la fois très très sombre et très très drôle et son texte est plein de colère contre justement tous ces interdits qui peut-être un jour finiront par nous rendre la vie impossible et justement quand on lit ces textes on est un peu, comme vous le dites, on ressent un peu un fluide glacial parce qu'on se dit non, est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans une société comme celle-ci avec tous ces interdits? Non. Et quand on les lit, la réponse est clairement non. Et en même temps, il y a beaucoup d'humour. On rigole beaucoup en lisant ces textes parce que et ça, c'est peut-être le propre des auteurs de polar. C'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir leur regard parce que les auteurs de polar, souvent, ce sont les auteurs de la crise. Hein. C'est Jean-Patrick Manchette, le grand pape du polar français qui disait ça. Le roman noir, c'est le roman de la crise. Et donc, ces auteurs-là savent prendre la réalité telle qu'elle est et en faire autre chose.
On est tellement abreuvé d'infos autour de la Covid, pour faire plaisir à l'Académie française, qu'il fallait prendre ce champ que seule la littérature permet.
Oui, je trouvais que c'était intéressant d'avoir cet autre regard, parce que, comme vous le dites, on est abreuvé de chiffres, tout en étant sûr de rien. C'est-à-dire qu'on voit bien, hein, il n'y a qu'à voir le débat sur les masques, est-ce qu'il sert à quelque chose à l'extérieur, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire. Au fond, personne, pour l'instant, n'a beaucoup de certitudes sur cette épidémie, et donc ça m'intéressait de soumettre ce sujet à des auteurs de polar qui, eux, souvent, s'intéressent à ce qui ne fonctionne pas dans la société et essayent d'en tirer un enseignement ou même peut-être une dystopie, c'est-à-dire de se projeter dans l'avenir en racontant à travers une réalité.
Et en espérant que
je ne suis pas du tout déçue par ces textes qui sont à la fois très très noirs et très drôles.
Et très drôles. Et en espérant que l'avenir reste littéraire dans les pages de Libération et ne soit pas un avenir auquel nous serons confrontés. Merci Alexandra Schwarzbrod d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Donc cet article, hein, ces deux, non pas articles, mais nouvelles à retrouver dans le Libé de ce week-end. Le nucléaire en question aujourd'hui dans le débat de midi. Faut-il compter sur lui pour réduire les émissions de CO2? On en parle avec vous jusqu'à 13h. Intervenez sur le site ou l'appli de France Inter. Tweetez avec le hashtag débat de midi. C'est Mao de Butler qui a préparé cette émission. Lucie Lemarchand la réalise et toute l'équipe vous souhaite un excellent été sur France Inter.
Le soleil.
Pony Banane, c'est un peu comme si Le Groove avait fait un enfant avec les Teletubbies, ou bien l'inverse. Le titre de Pony Banane, c'est « La lune et le soleil ». Et bienvenue, si vous nous rejoignez, il est midi et quart.
France Inter. Thomas Chauvineau. Le débat de midi.
Le nucléaire peut-il être vert? C'est la question qu'on se pose avec vous jusqu'à 13h. Ces mails qui commencent à nous arriver sur notre adresse ledebatdemidi@radiofrance.com. Jean-Louis nous dit « Les producteurs de nucléaire et d'autres organismes tels que la SFEN, la SN, etc. disent « Le nucléaire produit pas ou peu de CO2, mais peu de CO2, qu'en est-il de l'extraction du minerai, le transport, le raffinage, le transport de l'uranium, etc. » Non, définitivement, le nucléaire n'est pas vert. Paul nous dit « N'oublions pas les risques de voir une région ou un pays contaminé par un accident tel Fukushima ou Tchernobyl. » Et Christophe, à quand un référendum sur la question du nucléaire pour donner enfin la parole aux Français sur ce sujet stratégique et peut-être interrompre aussi la fermeture programmée des centrales qui a été décidée sans aucune concertation citoyenne. Valérie Faudon, vous êtes déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Ce sujet reste encore aujourd'hui très épidermique, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, absolument. En fait, je pense que les écologistes des années 70 et 80 étaient contre le nucléaire et les grands arguments qui venaient à ce moment-là, c'était ces questions de déchets et puis les questions de sûreté.
Depuis, qui se posent toujours.
Oui, bien sûr, mais depuis, l'industrie a fait énormément de progrès. Les centres de recherche sur la gestion des déchets nucléaires, hein, aujourd'hui, sont bien gérés, ils sont pas en contact avec la biosphère. Et aujourd'hui, je dirais, il y a une écologie du monde d'après. C'est-à-dire quels sont les grands sujets aujourd'hui environnementaux quand on regarde ce qui préoccupe les Français, c'est d'abord le réchauffement climatique. Ensuite, c'est les questions de biodiversité, les questions de pollution de l'air, les questions aussi d'utilisation des ressources minérales dans le monde. Et donc, en fait, sur ces quatre sujets-là, en fait, il se trouve que le nucléaire est extrêmement bien noté. Je prends le cas du climat parce que le monsieur disait, oui, mais est-ce qu'on compte tout? Oui, bien sûr, hein, tout est absolument normalisé. Il y a une manière qui s'appelle de calculer, qui s'appelle l'analyse du cycle de vie. On prend tout, de la construction de l'installation, son exploitation, sa durée de vie, et puis la gestion des déchets. Et justement, en fait, le nucléaire n'émet pas de CO2, puisque la réaction de fission n'émet pas de CO2. Et quand on compte les émissions du nucléaire, on compte justement ces émissions annexes.
En tout cas, c'est en effet un rapport du GIEC hein, qui appuie pour le coup vos propos en disant que le nucléaire rejette sensiblement la même quantité de CO2 que les énergies renouvelables. Néanmoins, Yves Marignac, ça ne suffit pas. Vous êtes porte-parole de l'association Négawatt, donc plutôt opposé hein, à l'énergie nucléaire.
Alors, c'est pas une question d'être opposé ou pas à l'énergie nucléaire, c'est plutôt l'idée que... Pardon, il faut que je règle le son parce que j'ai un retour, excusez-moi.
Prenez votre temps, nous vous écoutons.
J'en profite d'ailleurs pour remercier aussi France Bleu Saint-Étienne. Oui, certes, il y a l'argument climatique, mais la question écologique est bien plus large et les questions de risque d'accident, les questions de déchets, mais aussi tout ce qui relève de la prolifération, c'est-à-dire cette dualité civile, militaire, des technologies et des matières nucléaires dont on ne peut pas ne pas parler alors qu'on est malheureusement
en train de fêter les 75e ans
anniversaire des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Tous ces sujets et les sujets de gouvernance associés à cette technologie restent sur la table. Donc oui, il y a un relatif accord pour, même si il y a des incertitudes sur les analyses cycle de vie, pour dire que le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre, mais ça n'en fait pas nécessairement un élément indispensable du monde d'après, et je dirais même au contraire. Et d'ailleurs ce qui s'est passé le jour même de la fermeture de Fessenheim était intéressant, puisque la Convention citoyenne pour le climat remettait le même jour, le 29 juin, ses conclusions et ses recommandations au président de la République, et on voit bien que dans ses recommandations, elle appelle à un changement beaucoup plus profond de mode de production, de mode de consommation, et à quelque chose dans lequel finalement, il n'a pas fait énormément de place au nucléaire, et je pense que c'est révélateur en réalité d'un espèce de changement d'époque dans la société française. On a tourné la page, je crois, du tout nucléaire, de ce nucléaire un peu identitaire, pilier de la politique énergétique, etc. La société française assume aujourd'hui l'idée d'un déclin de cette forme d'énergie au profit notamment des énergies renouvelables. L'avenir dira jusque où ça nous mène, mais en tout cas, ce marqueur-là, il est pour moi très clair aujourd'hui.
Mais c'est vrai que pour l'instant, Valérie Faudon, à part les Émirats Arabes Unis qui viennent tout juste de mettre en place un réacteur inauguré il y a quelques jours, et la Grande-Bretagne, plus personne aujourd'hui dans le monde ne décide de miser sur le nucléaire.
Ah, oh, bien sûr que si.
Il va falloir le démontrer alors.
Oui, bien sûr, on n'a jamais autant construit cette année que depuis les 20 dernières années.
Voilà, vous parlez de programmes qui ont déjà été mis en place, mais aujourd'hui plus personne ne décide de construire des centrales.
Bien sûr que si, les Chinois font des centrales nucléaires, les Indiens viennent de faire leur première divergence la semaine dernière. Alors, on construit beaucoup plus dans les pays émergents, mais bien sûr, puisque eux, ils ont besoin de beaucoup plus d'électricité.
Alors, je peux reposer la question différemment. En Europe, par exemple, seule la Grande-Bretagne s'y est continue.
La Finlande et les pays de l'Est aussi, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne souhaitent mener un programme nucléaire. Je voudrais répondre à Yves sur un point qui n'arrête pas de m'étonner, c'est de faire le lien entre les centrales nucléaires et la bombe atomique. Tous les pays qui aujourd'hui ont la bombe atomique ont eu la bombe atomique bien avant d'avoir l'électricité civile. Il y a même des pays, je pense à la Corée du Nord, qui ne maîtrisent pas l'électricité nucléaire civile. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour un pays d'accéder, bizarrement. Enfin, heureusement, il y a des contrôles de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais historiquement, les États-Unis, la France, la Chine, l'Inde ont eu la bombe bien avant d'avoir l'énergie civile.
Karine Hervieux, vous êtes directrice générale de l'Institut de radioprotection de la sûreté nucléaire. Aujourd'hui, il fait très très chaud, une canicule attendue, on le sait, on en a beaucoup parlé dans les journaux. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les centrales nucléaires ?
Alors effectivement, alors d'abord je vous corrige un petit peu, je me permets, je suis directrice générale adjointe et non pas directrice générale de l'IRSN.
C'est pour bientôt.
Oui, donc les centrales effectivement ont un impact sur l'environnement puisqu'elles ont besoin d'eau pour refroidir leur circuit. Les réacteurs et les piscines d'entreposage du combustible ont besoin d'eau pour refroidir les systèmes. Donc il y a deux configurations, soit la centrale est en bord de mer et donc on a ce qu'on appelle un circuit ouvert, c'est-à-dire que l'eau est prélevée dans la mer, elle vient refroidir les circuits par des échangeurs et elle est ensuite rejetée en intégralité. Et puis il y a des centrales qui sont au bord de cours d'eau ou en estuaire, où là on a des tours aéro-réfrigérantes, donc les espèces de grandes tours qu'on voit autour de la plupart des centrales.
Pour poser la question différemment, c'est est-ce que cette canicule peut représenter un danger pour les centrales nucléaires, les 18 centrales nucléaires en France aujourd'hui ?
Alors cette canicule peut présenter un certain nombre d'inconvénients en termes d'exploitation. Donc depuis les canicules de 2003, il y a eu un certain nombre de normes de sûreté qui ont été rehaussées pour la sûreté des installations. Il y a toute une phase préalable quand on a une prévision d'augmentation des températures et ça peut aller jusqu'à l'arrêt des réacteurs lorsque les conditions d'exploitation ne peuvent être poursuivies compte tenu de la température de l'eau ou de l'air.
Yves Marignac, ça prend du temps d'en sortir. La loi de 2015, qui était la loi relative à la transition énergétique, prévoyait que la France aurait réduit la part du nucléaire dans sa production d'électricité à 50% en 2025. Ça a été prolongé récemment par Emmanuel Macron, à son arrivée au pouvoir, qui a décidé de décaler cet objectif à 2035. C'est long de sortir du nucléaire. Est-ce que ça signifie qu'on a du mal à s'en passer ?
Alors, oui, c'est long d'en sortir. Au passage, tout à l'heure, vous avez dit, je crois qu'un commentaire d'auditeur disait que cette fermeture programmée des réacteurs a été décidée sans concertation citoyenne. Au contraire, justement, puisque cette loi de 2015 a été précédée d'un grand débat national sur la transition énergétique, et je m'en souviens bien puisque je faisais partie du secrétariat général de ce débat, elle a été suivie d'un débat législatif, elle a été suivie encore d'un débat public, donc c'est... en ça que je disais tout à l'heure, que la société française aujourd'hui assume cette forme de déclin. Pour autant, ça n'est évidemment pas simple de sortir du nucléaire, d'autant plus quand on est, comme la France, à un niveau record et sans comparaison dans le monde de part du nucléaire dans la production d'électricité. Il va bien pourtant falloir se poser la question, puisque la situation dans laquelle nous sommes, c'est un parc nucléaire vieillissant. Il a atteint, pour les réacteurs les plus anciens, la durée de vie de 40 ans qui était celle imaginée initialement. qui a été construit dans un temps extrêmement court, et c'est une des difficultés auxquelles on fait face. Grosso modo, l'essentiel du parc a été mis en service en une dizaine d'années. C'est ce que, entre spécialistes, on appelle l'effet falaise. Et donc la perspective, indépendamment presque des solutions du point de vue énergétique qui existent, même si elles prennent du temps à mettre en œuvre, la perspective, c'est aujourd'hui pour EDF, un parc qui actuellement génère massivement des recettes et qui demain va devoir fermer assez massivement et brutalement et générer beaucoup de dépenses liées au démantèlement et à la gestion des déchets. Et c'est ça aussi, et à mon sens, plus que l'absence d'alternatives, puisque encore une fois, elles existent, qui explique cette difficulté politique à engager plus rapidement cette transition.
Quel regard vous portez, Yves Marignac, sur les propos de, par exemple, Jean-Marc Jancovici, qui est membre du Haut Conseil pour le Climat, donc plutôt engagé hein, dans la lutte contre le réchauffement climatique, et qui dit peut-être qu'il faut s'intéresser, il ne dit pas d'ailleurs peut-être, il dit il faut que les centrales nucléaires continuent à produire, et voire continuent à produire encore plus d'électricité qu'aujourd'hui.
Alors, on est à Négawatt en accord sur un grand nombre de sujets avec Jean-Marc Jancovici, notamment évidemment l'importance de la lutte contre le dérèglement climatique, l'importance aussi, et il le met régulièrement en avant, d'une politique de maîtrise des consommations d'énergie avant de penser à des solutions du côté de l'offre. On est en désaccord profond sur l'analyse des possibilités comparées du nucléaire et des renouvelables, et on considère, nous, que l'évolution actuelle en Europe et dans le monde lui donne chaque jour un peu plus tort sur ce point. Le défaut des raisonnements que tient Jean-Marc Jancovici en général, c'est des raisonnements, il adore cette expression d'ailleurs, toutes choses égales par ailleurs. Donc on suppose le système électrique figé, et là on regarde ce qui se passe si l'on retire le nucléaire. Évidemment, c'est une manière de raisonner qui met en évidence des problèmes liés aux fermetures de réacteurs nucléaires, mais évidemment aussi dans la vraie vie du système électrique, les choses se passent différemment. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, il faut à un moment donné fermer les réacteurs nucléaires, que ce soit demain en 2025 ou en 2035. Et donc, il faut se projeter dans des nouvelles solutions. Il s'agit évidemment pas de fermer tous les réacteurs du jour au lendemain, ça n'est pas l'objectif, et encore une fois, ça n'est pas la vision dans laquelle s'inscrit Négawatt, qui recherche une trajectoire
Bien sûr qu'il faut prendre son temps. Je voudrais que Valérie Faudon puisse nous répondre, Yves Marignac.
Je finis juste là-dessus, si vous me le permettez. Il s'agit pas de tout fermer brutalement, mais il s'agit de se projeter dans une évolution de notre système électrique, où il faut bien un jour fermer des réacteurs, et les remplacer par d'autres choses. Et aujourd'hui, ce qui est le plus performant, c'est la maîtrise de la consommation et les énergies renouvelables.
Valérie Faudon, de la Société française d'énergie nucléaire.
Oui, ce qui n'a pas de sens, c'est d'opposer nucléaire et renouvelable. On voit très bien qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout en train d'être sur la bonne trajectoire pour atteindre nos objectifs climatiques. On aura besoin de tout. Et c'est une chance qu'on ait ce parc nucléaire, parce que cette électricité décarbonée, ça peut nous aider à nous débarrasser du pétrole et du gaz dans les transports et aussi dans le chauffage et l'habitat. Ce que je voudrais dire, et ça c'est vraiment très important, oui, il y a eu des débats, mais il n'y a pas eu d'impact, d'étude d'impact sur la fermeture de Fessenheim. On sait très bien que la fermeture de Fessenheim va engendrer des émissions de CO2 parce qu'elle est en concurrence sur des centrales à gaz et des centrales à charbon sur le réseau européen. Aujourd'hui, quand on ferme une centrale nucléaire, c'est une centrale à gaz qui la remplace. C'est ce qu'on voit au Japon, c'est ce qu'on voit aux États-Unis, c'est ce qu'on va bientôt voir en Belgique. Aujourd'hui, il faut garder les centrales et développer les renouvelables et aussi décarboner les autres secteurs.
Le nucléaire peut-il être vert? On se pose la question avec vous aussi. Intervenez sur le site ou l'appli de France Inter. Dans quelques instants, nous serons au téléphone avec Brice Lalonde, ancien ministre de l'Environnement converti au nucléaire. Vous êtes bien sur France Inter et nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
We fall in love and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything. Just don't tell me no. You stop it still, then you make it rush. You're like a pill that I just can't trust. You tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this.
too far. It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day.
Céleste et ce titre, Stop This Flame, il est midi et demi.
Le débat de midi. Sur France Inter.
Trois invités aujourd'hui pour se poser cette question. Le nucléaire peut-il être vert? Yves Marignac, qui est porte-parole de l'association Négawatt. Valérie Faudon, qui est déléguée générale adjointe de la Société française d'énergie nucléaire. Et Karine Hervieux, Valérie Faudon, qui est bien déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Et Karine Hervieux, qui est directrice générale adjointe de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Sur Twitter, ce message qui nous arrive, hashtag débat de midi, Bioman nous dit comment peut-on estimer que le nucléaire est positif pour l'environnement au vu des dangers auxquels il nous soumet. Du point de vue de la sécurité, cela semble aberrant. Des États et des groupes terroristes peuvent en faire des cibles d'attaque, Karine Hervieux.
Écoutez, ça fait partie des études qui sont menées au niveau de l'IRSN et par les exploitants nucléaires, et ils sont en capacité de mettre en place des protections. Ils doivent mettre en place des protections pour parer à ce type de situation. L'IRSN examine effectivement la suffisance de ces protections compte tenu des menaces qui peuvent peser sur les centrales nucléaires et les autres installations.
Et aujourd'hui, les centrales nucléaires françaises sont sûres?
Les centrales nucléaires françaises sont en train d'être remises à un niveau de sûreté qui est proche de celui des derniers réacteurs qui sont construits dans le monde, le EPR de Flamanville en particulier. L'autorité de sûreté nucléaire a conditionné la poursuite d'exploitation des réacteurs au-delà de 40 ans, justement, à une augmentation significative du niveau de sûreté de ces installations.
Nous sommes aussi au téléphone avec Brice Lalonde, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le débat de midi. Vous êtes partisan de cette énergie nucléaire? C'est la seule qui, selon vous, puisse faire baisser le bilan carbone?
C'est certainement pas la seule. Mais le problème principal aujourd'hui, pour tous les écologistes, c'est le changement climatique. Le changement climatique, il est causé par la combustion du charbon, du pétrole, du gaz naturel. Et donc, dans ces conditions-là, la priorité, c'est de lutter contre les combustibles fossiles, et quand on nous embête avec le nucléaire, c'est une espèce de diversion qui nous fait perdre du temps. Donc le nucléaire, il n'est pas parfait, il a des problèmes, est-ce qu'on peut l'améliorer? Mais si on veut lutter contre les combustibles fossiles, il faut électrifier davantage. L'électricité est devenue un allié indispensable, c'est pour ça qu'on va électrifier les automobiles, par exemple, c'est pour ça qu'on devrait électrifier le bâtiment. Bien entendu, il n'y a pas que l'électricité, il y a aussi la chaleur renouvelable. Mmh. Mais donc, si vous voulez, le nucléaire, on perd du temps avec ces histoires-là. Il faut le faire durer, il faut le rendre sûr, et puis il faut arrêter de nous embêter, de nous obnubiler avec le nucléaire.
Brice Lalonde, vous êtes ancien ministre de l'Environnement, ancien candidat à la présidentielle, ancien candidat écolo à la présidentielle. Alors, Saint-Paul, sur le chemin de Damas, a été frappé par la lumière céleste. Vous, qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a converti à l'atome?
Alors d'abord, c'est pas une conversion, c'est... De deux mots, choisissons le moindre.
Vous étiez complètement opposé à une époque au nucléaire.
Mais bien sûr, je me suis bagarré, c'était dans les années 70. Dans les années 70, le mouvement écologiste s'est bagarré contre les voitures en ville, et entre nous soit dit, il a gagné là-dessus, et contre le nucléaire dont on avait peur. Mais dans les années 80, nous avons appris avec la création du GIEC, avec tous les débats sur le changement climatique, nous avons appris qu'il y avait une menace beaucoup plus grande, beaucoup plus importante, qui concernait la planète tout entière et qui était le dérèglement climatique. Et donc, dans ces conditions-là, on s'est aperçu que c'était le pétrole, le principal ennemi, le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Et donc, c'était pas le nucléaire le problème principal. Donc, dans ces conditions-là, arrêtons de vouloir absolument sortir sur le champ du nucléaire, c'est pas possible. Essayons au contraire de l'améliorer. Et ce que je reproche éventuellement aux antinucléaires, c'est qu'ils s'intéressent absolument pas à l'améliorer. Moi, par exemple, je suis favorable à ce qu'on appelle la transmutation des déchets nucléaires, c'est-à-dire une manière de réduire leur durée et leur dangerosité d'un facteur 1000. Et ça ne durerait plus que 3 siècles ou 2 siècles. Donc, si vous voulez, il y a des tas de choses qu'on peut faire et qu'on ne fait pas parce qu'on est bloqué sur cette histoire nucléaire.
Je voudrais entendre Yves Marignac, porte-parole de l'association Négawatt, sur cette question.
Alors c'est évidemment une prise de position qui amène beaucoup de commentaires, mais le premier, c'est peut-être... en tout cas, ce qui me frappe, c'est à quel point c'est une évolution, sinon une conversion, à contre-temps de l'histoire. Parce que quand Brice Lalonde s'est engagé dans le combat écologiste, beaucoup croyaient dans le développement des énergies renouvelables, mais c'était à l'époque quelque chose d'extrêmement utopique presque, compte tenu de leur situation technique et économique à l'époque. Aujourd'hui, clairement, les énergies renouvelables ont fait des gains de performance et à la fois techniquement et économiquement qui en font un bien meilleur candidat que le nucléaire pour apporter, et elle le démontre d'ailleurs tous les jours au niveau européen et au niveau mondial, pour apporter une nouvelle électricité décarbonée, parce qu'on est d'accord par ailleurs sur le fait que la part de l'électricité est appelée à augmenter dans notre mix énergétique, parce que c'est facile, c'est disons la chose la plus facile à décarboner. Moi, je ne comprends pas un raisonnement qui consiste à dire qu'aujourd'hui, se relancer dans la construction de réacteurs nucléaires avec les coûts que ça représente, avec les délais et les retards que l'on connaît, serait un moyen plus efficace de réduire les émissions que de développer les énergies renouvelables. Et d'ailleurs, dans...
Et est-ce que selon vous, Yves Marignac, est-ce que selon vous, il y a assez aujourd'hui de production d'électricité par les énergies renouvelables pour couvrir l'ensemble du territoire français, en tout cas pour passer à ce fameux mix 50-50, et puis au fur et à mesure faire disparaître l'énergie nucléaire. Et ensuite, Valérie Faudon prendra la parole.
Alors, pas aujourd'hui, mais dans des scénarios à l'horizon 2035-40-50, oui. Je voudrais juste dire un mot sur... parce que cette question...
Attendez, Valérie Faudon.
Oui, moi, la réponse est non. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe actuellement en France, aujourd'hui et hier. Il n'y a pas de vent. On a besoin de toutes les sources d'énergie. Et le nucléaire, il a l'avantage d'être à la fois bas carbone, donc il émet très peu de gaz à effet de serre, mais aussi il fonctionne 24 heures sur 24. Donc pour sécuriser notre approvisionnement énergétique, en fait, il ne faut pas aller vers le tout renouvelable non plus. On a besoin d'un socle nucléaire et donc on doit le renouveler, puisque comme Yves disait, il va y avoir un effet falaise dans les années 40. Donc il faut renouveler notre socle et associer ce socle nucléaire avec des énergies renouvelables. Vous avez les énergies renouvelables, elles ont énormément d'avantages. Elles ont aussi des inconvénients. D'abord, elles fonctionnent en fonction du vent et du soleil. Et puis, le deuxième inconvénient, c'est qu'elles sont aussi gourmandes en ressources naturelles. Il y a eu un rapport de la Banque mondiale, on ne peut pas accuser d'être pro-nucléaire, la Banque mondiale, au mois de mai, qui dit que pour atteindre nos objectifs climatiques en 2050, il faudra augmenter de 500% notre consommation de minéraux et de métaux. Donc, ça veut dire, en fait, il faut regarder un bouquet de solutions, un portefeuille, et utiliser les différentes parties de ce portefeuille pour trouver la meilleure solution. Et surtout, accélérer. On ne peut pas se permettre d'opposer des solutions les unes entre elles. Le président, le directeur général de l'Association internationale de l'énergie disait, on n'a pas le luxe de choisir sa solution préférée aujourd'hui. Il faut tout prendre.
Sur notre mail ledebatdemidi@radiofrance.com, Antoine nous dit « Bonjour, je suis travailleur du nucléaire et l'énergie nucléaire est peut-être « propre », écrit-il entre guillemets, avec un faible bilan carbone, mais l'industrie nucléaire ne l'est pas du tout. Le nucléaire, c'est tout un amont et un aval de cycles qui sont très polluants et génèrent énormément de déchets. » Brice Lalonde, vous êtes toujours avec nous au téléphone.
Oui, je suis avec vous. Vous savez ce qu'on dit en écologie, c'est la même chose qu'en économie. Il n'y a pas de repas gratuit. Tout a un coût, tout a un impact, et il faut essayer de mesurer le pour et le contre. Et donc, il ne s'agit pas, en effet, d'opposer le nucléaire au renouvelable. On a besoin des deux. Le renouvelable grandit. D'ailleurs, c'est pas simplement les renouvelables électriques, ce sont aussi les renouvelables qui produisent de la chaleur. Vous savez, la moitié de la consommation d'énergie en France, c'est de la chaleur. On peut la produire de manière renouvelable, donc faisons-le. Et il ne s'agit pas non plus de tomber amoureux d'une éolienne ou d'une centrale nucléaire. C'est absurde, ces mots religieux, la conversion, tout ça. Ce ne sont pas des actes de foi, c'est quelque chose de rationnel. Essayons d'être sérieux, voyons comment on peut faire. Est-ce que, par exemple, on peut de gaieté de cœur dire on va tout d'un coup bazarder toute l'industrie nucléaire française, le savoir-faire, les ingénieurs? Mais c'est absurde, parce qu'on en aura besoin pour la sécurité, on en a besoin pour le démantèlement. En effet, le nucléaire, c'est pas quelque chose qui s'arrête d'un coup. Et donc, la question de savoir ce qu'on va faire demain, je ne sais pas encore moi-même, pour vous dire la vérité. Mais je sais que pour une centrale nucléaire, si vous voulez la remplacer par des éoliennes, actuellement, selon ce que dit le réseau de transport d'électricité, il faut à peu près 1 000 000 d'éoliennes pour une centrale nucléaire. Et donc, tout ça, ça veut dire qu'il faut être pragmatique et qu'on le fait petit à petit, qu'on se réunit tous les 10 ans, qu'on regarde.
Mais donc, vous êtes quand même, Brice Lalonde, d'accord pour faire disparaître petit à petit, comme vous venez de le dire, le nucléaire en France?
Alors, je ne suis même pas sûr que ce soit quelque chose d'intelligent à faire. Hein, je pense qu'on peut peut-être en garder quelques-unes. Après tout, la loi dit on va faire 50% de renouvelables, 50% de nucléaire dans le mix électrique français en 2050, ou je ne sais, ou 2030 même. Donc, travaillons là-dessus, voyons comment on peut faire. Est-ce que c'est raisonnable? Je pense que l'autre partie de la discussion, c'est la consommation, ce sont les usages. C'est évident qu'il faut réduire la consommation ou qu'il faut en tous les cas faire des économies d'énergie. Mais comment on va électrifier? Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de travailler en ce moment à multiplier les bornes de recharge rapide pour les voitures? Est-ce qu'on ne peut pas transformer aujourd'hui la réglementation des habitants, de l'habitation pour lutter contre le CO2, alors que ce n'est pas fait aujourd'hui? Et donc il y a un décalage incroyable, à mon avis, entre les grandes proclamations politiques à la Chambre des députés, l'urgence climatique, et puis ce qu'on fait réellement derrière. Ça ne suit pas.
Merci Brice Lalonde d'avoir été au téléphone avec nous dans ce débat de midi. Karine Hervieux, vous êtes directrice générale adjointe, donc ça y est, j'ai bien retenu, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Lors de la présentation de son rapport annuel en mai dernier, l'autorité de sûreté nucléaire a pointé du doigt un recul de la culture de la sûreté. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que la rigueur d'exploitation qui est mise en place sur certaines centrales nucléaires est effectivement en retrait. C'est-à-dire qu'on a un nombre d'événements significatifs qui se produisent sur les centrales qui font écho à des problématiques de ce qu'on appelle la conformité, c'est-à-dire qu'il y a un entretien, finalement, pour faire simple, un entretien de la centrale qui n'est pas tout à fait au niveau attendu. Et donc, effectivement, le nucléaire, c'est une vigilance en permanence. Il faut toujours être vigilant. Et donc, c'est cette vigilance qui nécessite une attitude interrogative de l'exploitant, et elle est en retrait sur quelques sites français.
Il y a beaucoup de questions qui nous arrivent sur Twitter, hashtag débat de midi, ou sur notre courriel concernant les déchets. Les déchets nucléaires sont une catastrophe écologique sur le long terme. Cet autre message qui nous est Denis, qui habite à côté de Bure-sur-Yvette, donc là où doivent être enfouis la plupart des déchets en France. J'habite près de Bure, et que ceux qui définissent le nucléaire comme écologique viennent y habiter. Quel regard la sûreté nucléaire porte-t-elle justement sur la gestion des déchets?
Alors, en fait, l'IRSN est partie prenante dans l'analyse des dispositions qui sont prévues pour le stockage ou l'entreposage de ces déchets. Actuellement, il y a le projet Cigéo, effectivement, au niveau de Bure, qui vise à utiliser, finalement, bénéficier de la couverture géologique des sous-sols en complément des dispositifs de vitrification et d'enrobage des déchets pour limiter le rejet, la migration de ces produits qui sont de très longue vie, donc qui vont rester radioactifs pendant des centaines de milliers d'années pour pouvoir justement limiter leur impact sur l'environnement. L'objectif, c'est de ne pas dépasser.
Mais comment savoir que l'impact sera limité sur des millions et des millions d'années, comme vous le dites?
Écoutez, on fait des calculs qui prennent en compte l'état des sols tout ça permet de montrer que dans ces centaines de milliers d'années, quand les radionucléides vont migrer, éventuellement quelques radionucléides vont migrer à la surface des sols, on sera en dessous de la limite de 1 millisievert par an qui est fixée par la réglementation.
Valérie Faudon de la Société française d'énergie nucléaire.
Oui, je reviens sur ce que disait Brice Lalonde. Il disait personne n'est parfait. Donc nous, on est bon sur le CO2. On a une très faible emprise au sol. Donc ça, c'est bien parce qu'on bétonne pas les territoires pour produire de l'électricité. Mais bon, on a des déchets. Mais il faut voir qu'on les gère très bien. Puisqu'aujourd'hui, quand j'entendais cet auditeur qui disait c'est une catastrophe écologique, ben non. Quel est aujourd'hui le problème posé pratiquement en France sur ces déchets nucléaires? Ils sont tous dans des centres de stockage. Ils sont hyper bien conditionnés, ils sont hyper bien surveillés, ils sont inspectés absolument tout le temps. Ils sont pas en contact avec la biosphère. L'énergie fossile, enfin que ce soit le charbon ou le pétrole ou le gaz, ils rejettent leurs déchets dans l'air qu'on respire. Le nucléaire s'occupe de ces déchets, ils sont pas en contact avec les êtres vivants. Aujourd'hui, les vraies catastrophes environnementales, on en a parlé déjà, c'est la question climatique, c'est la question de la biodiversité. Et le nucléaire, c'est pas du tout un problème, c'est au contraire une solution.
Sur France Inter, les auditeurs sont pas tout à fait d'accord avec vous, Valérie Faudon. Claude nous dit mettre en exergue le faible bilan carbone d'une centrale nucléaire est un abus. En effet, pour la construire, il faut du béton, des camions, des ouvriers de transport, et j'en passe, et des pires. Un autre auditeur nous dit, le nucléaire peut-il être vert pour l'interrogation? Mais vous vous moquez du monde? Avez-vous oublié Tchernobyl? Avez-vous oublié Fukushima? Avez-vous oublié les milliards nécessaires pour démonter ces usines? Comment pouvez-vous employer le terme vert? Je pense que c'est soit de la provocation, soit de l'inconscience. C'est dans le débat de midi, en tout cas, aujourd'hui, consacré au nucléaire. Le nucléaire peut-il être vert? Après avoir rayé, en effet, on en parlait tout à l'heure, de la carte de ville entière au Japon, il y a tout juste 75 ans, le voilà qui serait au chevet de la planète pour réduire son empreinte carbone. On continue d'en parler, juste après un petit Queen, parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Vous êtes bien sur France Inter, et bon appétit, si jamais vous passez à table.
Insanity, loss, under pressure.
Queen, Under Pressure, sous la pression. Je me demande si ce n'est pas une facétie de notre programmateur musical Thierry Dupin qui rappelle peut-être que la pression dans une centrale nucléaire, c'est essentiel. Et si vous n'avez pas vu la série de Tchernobyl, je vous la conseille vivement.
France Inter. Le débat de midi. Thomas Chauvineau.
Avec trois invités aujourd'hui, on se demande si le nucléaire peut être écolo. Yves Marignac, qui est porte-parole de l'association Négawatt, Valérie Faudon, qui est déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, et Karine Hervieu, directrice générale adjointe de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et avec vous aussi, on continue à se poser la question. Vos messages nous arrivent nombreux. Alors, un auditeur me fait remarquer que j'aurais dit Bure-sur-Yvette. Alors, évidemment, si je l'ai dit, c'est une erreur. On parle bien de Bure dans la Meuse pour le centre d'enfouissement des déchets. Mathilde nous dit le GIEC ne passe pas le nucléaire comme l'unique solution de production électrique pour lutter contre le climat. C'est une des solutions possibles du mix et selon les indicateurs d'objectifs de développement durable, le nucléaire est moins bien noté que les énergies renouvelables. Et puis Marine, qui se présente comme une auditrice modérée, on présente souvent le nucléaire contre les énergies vertes et vice-versa, alors que c'est un mix que nous devrions prôner. Surtout, les derniers EPR ne sont pas rentables, on va avoir l'occasion d'en reparler. Il suffit de s'intéresser au rapport de la Cour des comptes, bien moins que les nouvelles énergies. Alors, pourquoi les opposer et pourquoi s'acharner, Yves Marignac?
Alors ça fait plusieurs fois que j'entends cette idée et qu'elle est renvoyée aux gens comme moi qui font la promotion de la maîtrise de la consommation avant tout, et je pense qu'il y a un accord sur ce point, et des renouvelables, en disant vous opposez nucléaire et renouvelable. En fait, les gens, les acteurs qui tiennent ce discours sont en réalité dans un discours de promotion et de priorité au nucléaire. Et moi, j'ai la vision inverse, c'est que aujourd'hui, compte tenu du potentiel et des performances des différentes solutions, c'est effectivement le nucléaire qui est la moins optimale des options pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sous deux angles. Sous l'angle d'abord du potentiel et de l'efficacité, et sous l'angle du développement soutenable. Et je vais revenir pour ça au fameux rapport du GIEC sur les trajectoires 1,5°C. La SFEN, Valérie Faudon, d'autres rappellent souvent et travestissent d'ailleurs le message de ce rapport en disant qu'il dit que le nucléaire est indispensable. Il ne dit pas ça puisqu'il a analysé 89 scénarios, oui. Et que dans ces 89 scénarios, il montre bien que certains atteignent le 1,5°C avec un déclin du nucléaire. Mais surtout, il dit que sur ces 89 scénarios qu'il a analysés, la valeur médiane en 2050 des énergies renouvelables dans la part de production d'électricité dans le monde, c'est 67%. La valeur médiane du nucléaire, c'est 9%. Donc, il n'y a pas photo sur où est le potentiel de développement pour aller vers un monde décarboné, en tout cas selon cette analyse du GIEC.
Il faut que tout le monde puisse s'exprimer, Yves Marignac. Donc laissons parler Valérie Faudon.
Il y a 89 trajectoires du GIEC. Elles ont tous du nucléaire et des renouvelables. Et quand les quatre trajectoires qui sont mises en avant dans le résumé pour décideurs, elles vont d'une augmentation de la production nucléaire de 100% à 500%.
Yves Marignac, allez-y.
Oui, je voulais finir sur la question de la soutenabilité parce qu'elle est essentielle, puisque on parle évidemment du climat, mais on ne parle pas que du climat, on parle notamment de l'ensemble des objectifs du développement durable tels que reconnus par les Nations Unies. Il y en a 17 et la lutte contre le changement climatique est un de ces 17 objectifs. Le GIEC, dans ce rapport, a fait une analyse de 23 options. Je crois que c'est ce à quoi Mathilde, votre auditrice, faisait référence. 23 options de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il a regardé, à travers la littérature scientifique, leur impact sur chacun des 16 objectifs du développement durable, autre que le réchauffement climatique. Parmi ces 23 options, le nucléaire est celui qui atteint le score le plus faible en termes de soutenabilité. Et c'est aussi ça qui nous fait dire que les options de maîtrise de la consommation et les options de renouvelables électriques qui atteignent des scores de soutenabilité beaucoup plus importants doivent aujourd'hui être la priorité. Donc ça n'est pas une question d'opposer, c'est une question de mettre les investissements aujourd'hui là où on est le plus efficace sur le changement climatique et en soutenabilité.
Vous allez pouvoir
le faire,
ça
n'est pas dans le nouveau nucléaire.
Valérie Faudon.
Donc
Valérie
sur
Faudon.
Le rapport du GIEC, moi je veux dire que le GIEC c'est les scientifiques du climat, c'est pas du tout les scientifiques du nucléaire. Les scientifiques du nucléaire, c'est l'Agence internationale de Vienne, de l'AIEA. Et qui en particulier, je voudrais donner deux exemples qui sont assez parlants. Le premier, c'est la croissance énorme, hein, de l'ordre de 10% par an de l'utilisation des radionucléides nucléaires pour dans le cadre de la médecine nucléaire, que ce soit pour le diagnostic mais aussi pour la thérapie. Et autre exemple très important en ce moment, bien sûr, c'est la question de l'acidification des océans. Un laboratoire à Monaco qui utilise aujourd'hui les radionucléides nucléaires en collaboration avec l'agence de Vienne pour étudier l'acidification des océans. Donc le nucléaire a énormément d'applications et énormément de moyens de contribuer aux objectifs de développement durable. Il y a un rapport de l'agence de Vienne qui est l'expert sur ce sujet, qui est disponible sur Internet.
En tout cas, ça fait parler puisque nous recevons au moins une 15 à 20 messages par minute. Karine Hervieux, en tant que directrice générale de l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, quel regard vous portez sur les autres sources d'énergie possibles, celles qui sont précisément renouvelables? Est-ce que les risques à utiliser ces sources d'énergie sont moins grands que les risques pris quand on utilise du nucléaire?
Alors, il faudra être attentif au mix énergétique, parce que le problème de ces énergies renouvelables, c'est leur intermittence. Et donc, il faut pouvoir aussi, pour la sûreté des centrales nucléaires, soutenir le réseau électrique. Hein, comme je le disais, la centrale, elle a besoin d'eau, mais elle a aussi besoin d'électricité. Donc, il y a aussi un problème de sûreté qui peut se poser pour les centrales nucléaires. De façon globale, je pense qu'il faut effectivement aller vers les énergies renouvelables. On parle peu de géothermie. Je le regrette, parce que je pense que ça peut être une des voies aussi qui présente peut-être moins d'inconvénients que le solaire
ou l'éolien. Yves Marignac, vous disiez dans une interview que j'ai lue récemment de vous que il y avait beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui s'intéressaient à un système électrique de demain dans lequel il y aurait plus une sorte d'installation centralisée comme une centrale nucléaire aujourd'hui qui distribuerait son électricité de manière très générale, mais au contraire que l'électricité serait gérée localement.
Oui, alors c'est vraiment tout le cœur du débat aujourd'hui autour de la place du nucléaire. Valérie Faudon disait tout à l'heure, on a besoin de garder un socle nucléaire quand on développe les renouvelables. Et Karine Hervieux rappelait à l'instant que les renouvelables sont intermittentes. Alors, on préfère, nous, largement utiliser le terme de variable parce que ça n'est pas de l'intermittence au sens d'un interrupteur où ça s'éteint et ça s'allume brutalement.
Mais ça veut dire quoi, que demain on aura chacun son éolienne dans son jardin?
Elles sont évidemment très variables. Et donc il y a effectivement aujourd'hui, de manière croissante, la vision d'un système électrique où on n'a plus besoin de grosses centrales comme les centrales nucléaires qui fonctionnent en base et où le système fonctionne avec un mix de solutions beaucoup plus décentralisées. Du photovoltaïque et de l'éolien en ferme, mais aussi du photovoltaïque très diffus sur les toits de nos habitations, des solutions locales et plus massives de stockage, des solutions de flexibilité de la demande pour faire coïncider une partie de nos consommations d'électricité avec les moments justement que l'on peut prévoir où l'électricité renouvelable produit. Donc, il y a aujourd'hui, y compris du point de vue de la sécurité d'un tel système en tension et en fréquence, toutes les briques pour savoir que on peut le construire, pas encore une fois immédiatement,
pas mais demain. Mais justement, il y a urgence climatique là.
Oui, mais alors face à l'urgence climatique, je veux dire la production nucléaire dans le monde, elle stagne depuis au moins une dizaine d'années. La production d'électricité renouvelable ne fait que croître et de manière accélérée. Les renouvelables produisent aujourd'hui, par exemple...
On arrive à la fin de l'émission, il va falloir conclure, Yves Marignac.
Non, mais voilà, vous m'interrogez. Enfin, en termes de priorité, encore une fois, ce qui fait reculer aujourd'hui le développement des renouvelables.
Le problème, c'est le charbon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ouvre encore des centrales à charbon. Le problème, c'est qu'on a un pays comme la Pologne qui se repose sur le charbon pour faire son électricité. On a besoin du nucléaire et des renouvelables pour sortir du charbon.
Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été avec nous dans ce débat de midi. Le débat continue, si vous le souhaitez, sur le répondeur de France Inter 01 56 40 68 68.